Vous connaissez tous la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, je pense, légèrement débauchée dans sa vie. Elle part pour des besoins de prostitution à Jérusalem, en suivant dans un bateau pour pouvoir aguicher encore les pèlerins. Arrivée à Jérusalem, elle les voit s'engouffrer dans l'église de l'Anastasis, et elle veut les suivre, et là, à la porte de l'Anastasis, la porte lui est mystérieusement fermée, bien que les portes soient ouvertes, elle ne peut pas franchir le seuil. Et là, elle comprend qu'elle est exclue à cause de son péché. Et du coup, elle se convertit. Elle peut vénérer le tombeau du Sauveur et le Golgotha. Et aussitôt s'enfuit dans le désert. Elle descend 1000 mètres d'altitude pour aller de l'autre côté du Jourdain, dans l'actuelle Jordanie. Et là, elle vit pendant 40 ans avec les bêtes sauvages et sans jamais voir personne, jusqu'au jour où Saint Zosime, un moine du monastère où plusieurs ont été sur les bords du Jourdain, va de l'autre côté, comme c'était la coutume des moines de quitter leur monastère pendant le carême pour vivre dans une ascèse plus grande dans le désert. Et là, il rencontre Sainte Marie l'Égyptienne qui lui raconte son histoire et lui demande de lui rapporter la communion l'année suivante à la même date. Ce qu'il fait, lui ayant apporté la communion, elle lui demande encore de revenir l'année suivante sur les mêmes lieux. Et quand il revient l'année suivante, elle est morte, et elle a écrit qu'elle était morte juste après avoir reçu la communion. Pourquoi cet exemple-là à la fin du carême? Pour nous montrer, pour nous encourager, en nous montrant que Dieu utilise au profit de l'homme même son péché. Il ne peut nous arriver d'être pécheur, plus ou moins, quelquefois beaucoup, et comme on a un minimum de conscience, on sait que c'est pas très bien, et on demande quelquefois à Dieu de nous épargner le péché. Or, l'expérience montre que le péché a une telle habitude en nous que notre volonté d'en sortir n'est pas si profonde que ça, relativement superficielle, et qu'en tout cas, notre prière ne semble pas exaucée parce que Dieu nous laisse encore et encore tomber dans le péché. C'est-à-dire que ce n'est pas que notre prière n'est pas exaucée. Notre prière est exaucée dans la mesure où, en fin de compte, on se relève par la grâce de Dieu. Pas toujours au moment même, mais éventuellement après. Mais finalement, on se relève parce que, cherchant à vivre avec le Christ, lui, et le Sauveur, et lui a vaincu le démon. Et ainsi, si notre prière n'est pas exaucée immédiatement, elle est cependant exaucée parce que, en fin de compte, Dieu nous délivrera de notre péché et des conséquences de notre péché. Dieu, donc, pour guérir du péché, Dieu le laisse agir, Dieu laisse mûrir, c'est comme un furoncle, si vous voulez. Vous le laissez mûrir, et quand il est bien mûr, vous pressez dessus de manière à le vider. Et avec le péché, c'est pareil. Dieu laisse le péché mûrir de manière à ce que l'homme, s'apercevant de la laideur ou de la souffrance que ça lui occasionne, ait le courage d'appuyer dessus, ce qui fait très mal, d'appuyer dessus et de se séparer de ce qui est la pourriture à l'intérieur de lui-même et ainsi collaborer à sa propre guérison. Comment survient cette guérison? Elle survient par l'intervention de Dieu qui non seulement inspire à l'homme, au pécheur, inspire un sentiment, une attitude de réelle componction, de véritable repentir, qui lui fait avoir le courage d'affronter, de reconnaître d'abord, et d'affronter son mal, de le confesser, c'est-à-dire d'appuyer dessus dans l'image que je vous donnais, ce qui fait mal, bien sûr, pour en être libéré. Et cette libération se fait par la force, pas simplement par l'exemple, mais par la puissance de ce que notre Sauveur, le Christ lui-même, a fait en mourant, en souffrant, en support, par amour pour nous, en souffrant la passion et la mort, y compris la tentation du découragement, sans sombrer dans le découragement, et pour remettre sa vie à son Père dans une totale confiance. Et c'est cette tactique-là, si je puis l'appeler ainsi, c'est cette tactique-là qui se communique à l'homme, puisque nous sommes tous intimement liés, notamment par la communion eucharistique, parce que nous sommes les membres du corps du Christ, parce que le Christ a pris notre nature et lui a insufflé, lui a redonné la force de s'opposer au mal en agissant lui-même, dans ce qu'il a pris de notre nature, en redressant la volonté de notre nature vers le bien. Il nous communique aussi ce même dynamisme, ce même mouvement, pour que nous aussi, nous ayons la force de collaborer à ce qu'il a déjà fait à l'avance pour nous, mais qu'il nous convient aussi d'accomplir en collaboration avec lui, c'est-à-dire en communion avec lui. Notez que lorsque nous communions au corps et au sang du Christ, les deux matières, le vin et le pain et le vin qui sont consacrés, et il est important de communier aux deux parce que le pain consacré manifeste ou porte la présence du Christ et fait que la manducation de son corps nous fait devenir ce qu'il est. Et nous alimentant de son corps, nous adhérons de plus en plus comme membres, nous nous greffons de plus en plus, si je puis dire, où la greffe pénètre le corps du Christ, et ainsi nous vivons vraiment sa vie même. Mais le sang, le vin donc consacré, représente non plus le corps du Christ, mais la vie même du Christ. Et le but de la vie chrétienne, c'est de vivre non pas en imitation du Christ, mais de partager sa vie même, puisque nous sommes le même corps et que nous sommes un corps unique. Il importe que nous partagions aussi sa vie, pas simplement son genre de vie, mais sa vie elle-même. Nous souffrons à cause de notre péché. Il a adopté les conséquences de notre péché, c'est-à-dire il a accepté, il a adopté, il a pris sur lui la souffrance qui résulte de notre éloignement de Dieu, de notre péché, y compris la mort. Mais à notre tour, nous vivons, quand nous vivons la souffrance, le renoncement, une forme de la passion, quelle qu'elle soit, y compris dans le martyr, ou essentiellement dans le martyr évidemment, mais même dans tout sentiment d'injustice, dans toutes les difficultés, dans toutes les maladies, des difficultés qu'on rencontre dans la vie. Et c'est une manière de vivre avec lui sa propre vie. Lui, il l'a vécu à l'avance pour nous, et nous, a posteriori, nous pouvons la vivre non pas comme lui, mais avec lui. Ainsi, c'est vraiment lorsque nous souffrons, lorsque nous pleurons, lorsque nous sommes tentés, c'est véritablement une collaboration à la vie du Christ. C'est le Christ qui souffre encore en nous. Ce n'est pas une image, ça, c'est une réalité. Une réalité d'ordre mystique, si vous voulez, mais c'est une réalité. immatériel, certes, mais une réalité tout de même. Et dans les lectures que nous avons entendues, dans l'Épître et l'Évangile, et dans le tropaire de Sainte Marie l'Égyptienne, je veux dire il faut retenir les quelques points suivants. Bon, je viens de vous dire pour le modèle de Sainte Marie l'Égyptienne qui nous montre que le Christ laisse le péché agir jusqu'au bout de manière à pouvoir en être délivré par sa force. L'Épître nous montre ce deuxième aspect que je vous ai montré, comment nous sommes l'unique corps du Christ et que par l'agonie qui a été la sienne et sa compassion pour les hommes, son amour, sa charité pour les hommes, il nous octroie, il nous donne une victoire éternelle pour nous-mêmes sur la souffrance et sur la mort. Mais en plus, nous avons célébré la résurrection. Fêtant la résurrection, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous ne sommes pas seulement dans l'attente de la fête de la résurrection à laquelle nous participerons dans 15 jours pour le jour de Pâques. L'illumination du carême par la croix au centre du carême, au milieu du carême. Les dimanches successifs avec toute la progression que vous connaissez de dimanche en dimanche. L'aboutissement du carême par les palmes et la résurrection montre que c'est l'ensemble du carême qui est lui-même symbolique, le symbole de toute la vie. C'est l'ensemble du carême qui constitue véritablement la Pâque. Pâque n'est pas, la victoire sur la mort n'est pas seulement le jour de Pâques. La victoire sur la mort, ça a été tout l'effort ascétique, l'effort de conversion, parce que l'ascèse en elle-même, elle ne vaut rien. L'ascèse a le but de nous faire un retour sur nous-mêmes, une conversion. Mais cette conversion-là, cette participation à la vie du Christ par le repentir, par la volonté d'abandonner sa condition pécheresse pour s'incorporer au Christ, ça, nous l'avons vécu pendant le carême et nous devons le vivre pendant toute l'année. C'est pour ça que le carême est symbole de toute l'année. Mais ça, une marche arrière complète, c'est-à-dire que la maladie que nous avons acquise par le péché nous fait descendre une pente vers la mort, mais le Christ ayant remonté cette pente, je prends l'exemple de descente et de remontée, parce que vous voyez la descente aux enfers et la remontée par la résurrection, et l'adhésion au Christ nous fait remonter aussi, et dans notre effort de carême, notre ascèse, notre jeûne, notre prière amplifiée, hein, ou notre repentir lorsque nous tombons. C'est une expérimentation personnelle, j'allais dire individuelle, mais bon, chacun à notre manière et à notre mesure, de ce retournement qui nous fait retrouver une force opposée à la force naturelle, c'est-à-dire une force ascendante, une force de remonter vers la vie et vers le royaume des cieux. Encore pour l'exemple de Sainte Marie l'Égyptienne, que nous fêtons aujourd'hui, en tant que dimanche, nous voyons que son exemple nous est donné pour que nous voyons que le but de la conversion et de l'ascèse, donc le but du carême, c'est de faire de nous, de chacun de nous, des ressemblants au Dieu homme, qui nous font faire des imitateurs du Dieu homme. Pas imitateur extérieur, mais imitateur en lui-même. Vous savez, si vous prenez de la pâte à modeler, vous mettez un seau, une petite grenouille, en plastique que vous mettez par-dessus, la pâte à modeler prend la forme d'une grenouille. Eh bien, mis à part la forme de l'animal, concevez que nous sommes comme la pâte à modeler, Et le sceau, c'est l'Esprit Saint qui l'imprime. Et la figure du sceau, le dessin du sceau, c'est le Christ. Et l'Esprit Saint, depuis notre baptême, imprime en nous le sceau du Christ. C'est ce que nous disons, le sceau du don du Saint-Esprit, au moment de la crispation, pour nous rendre conformes à l'image du Christ, nous rendre conformes à l'image de Dieu qui s'exprime en perfection, à la perfection dans le Christ. De manière à ce que nous soyons ressemblants, mais pas simplement comme son image, mais que nous soyons un en lui, à l'image de Dieu le Père. Et puis, dans la lecture de l'Épître, qui n'est pas simple à comprendre, il faut retenir aussi que le Christ est grand prêtre. C'est-à-dire que les prêtres de l'Ancien Testament, comme les prêtres du Nouveau maintenant, bien sûr, les prêtres de l'Ancien Testament avaient deux fonctions. La fonction d'offrir des sacrifices pour la rémission des fautes du peuple et pour leurs propres fautes. Ils offraient à Dieu, ils immolaient à Dieu les offrandes que les hommes apportaient à l'autel pour être sacrifiés. C'est ce que font encore les prêtres d'aujourd'hui, de manière plus symbolique, en offrant non plus des veaux ou des brebis, mais en offrant le véritable et l'unique sacrifice que tous les sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient, c'est-à-dire le sacrifice du Christ lui-même. Et comme nous sommes les membres du corps de Christ, c'est notre propre sacrifice que nous offrons en même temps. Donc, le Christ est grand prêtre, en ce sens que le grand prêtre entrait une fois par an dans le Saint des Saints, et comment dire, et amenait l'offrande par la projection de sang. Mais le Christ, lui, il a donné son sang lui-même, et c'est de cette manière-là qu'il est grand prêtre, en étant à la fois au ciel et à la fois sur terre, à la fois Dieu et à la fois homme. Et c'est cette action purificatrice, du Christ en tant que grand prêtre qui se perpétue en nous et qui nous purifie, nous aussi. Et comment? Par les sacrements, précisément, et notamment par le sacrement de l'Eucharistie, où le sang qu'il a versé sur la croix coule maintenant par notre participation au baptême et à l'Eucharistie, par la force de l'Esprit Saint reçue à la crispation, coule maintenant dans nos veines ou dans notre vie intérieure, si vous voulez. Et ce sang est le sang d'un Christ, de notre Christ ressuscité. Donc nous sommes nous-mêmes alimentés par la résurrection du Christ, par son sang. Voilà quelques aspects de ce que l'Épître et l'Évangile d'aujourd'hui doivent nous inspirer et nous faire comprendre. Parce que le Christ a supporté les souffrances qu'on a infligées à sa personne. Mais il est la tête du corps. Donc, pour prendre une image, si vous voulez, on a sacrifié la tête. La tête a souffert. Mais il faut encore que les membres que nous sommes souffrent, mais surtout supportent avec amour la souffrance pour les uns pour les autres. On supporte notre souffrance, que le Christ a adopté notre souffrance par amour pour nous, pour nous en sortir, et nous, par amour pour lui, on accepte la même chose, non seulement pour lui, tête du corps, mais aussi pour les autres. Quand vous souffrez, si vous offrez avec patience votre souffrance en collaboration, en communion, autrement dit, avec le Christ, la victoire du Christ à travers vous, qui nous vous fait dépasser la souffrance, rejaillit sur moi aussi et me donne la force, collabore à mon propre salut. C'est en ce sens-là que les souffrances, que les uns et les autres, nous sommes les collaborateurs du Christ dans le salut du monde, du cosmos, si vous voulez, des hommes et de tout le cosmos, par notre participation à la souffrance personnelle du Christ, individuelle du Christ, si vous voulez.